Bonjour, vous écoutez Itréma, le magazine des livres et de ceux qui les font vivre. Patrick Cojol est un ex-fonctionnaire de police et un écrivain prolixe. Pas un simple auteur de polar, un raconteur d'histoire, non, Patrick Cojol a le souci du ton et du rythme juste. L'écriture n'est pas un accessoire chez lui, les mots ne sont pas là pour servir l'intrigue ou le suspense. Le verbe, l'adjectif, la ponctuation forment un assemblage de matières à sculpter. Le soin que Patrick Cojol apporte au style n'est pas un détail. Cela témoigne d'une envie de dépasser les émotions primaires et les passions tristes dans lesquelles les auteurs de polar ont trop souvent tendance à entraîner leurs lecteurs. Patrick Cojol est l'auteur de nombreux ouvrages, des essais, de la poésie, des polars. Son dernier livre sortira en avril prochain. Il a pour titre « L'orange était sanguine ». Il nous a gentiment ouvert les portes de sa maison dans le Lauragais pour que nous fassions plus ample connaissance. On revient avec lui dans un premier temps sur son livre sorti en 2023, Les grandes affaires criminelles de l'Occitanie.
Alors, ce livre est sorti effectivement l'an passé. Ce qui m'a intéressé, par-delà les faits eux-mêmes aussi, c'est de montrer au lecteur l'évolution de la justice et des techniques policières. Donc c'est pour ça que sur la trentaine de grandes affaires criminelles, évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est certain, mais de montrer au lecteur à quel point la justice a pu évoluer. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à mettre des affaires un petit peu anciennes, du milieu du 19e siècle, d'autres beaucoup plus récentes du 20e, précisément pour montrer, parce qu'il y en avait pas mal, comment ça fonctionnait les exécutions capitales, donc jusqu'en 1981 et l'abolition de la peine de mort, et voir donc montrer au lecteur toute la continuité et toute l'évolution.
Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que ce sont les techniques des enquêteurs? Est-ce que ce sont le caractère scientifique? Mais est-ce que aussi c'est la justice elle-même qui a un autre peut-être regard sur les crimes?
Alors, il faut savoir que en 1832, il y a eu une grande réforme de la magistrature qui a instauré ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Donc, vous étiez condamné à mort avant 1832, c'était la décapitation sûre et certaine. Il y avait aussi, jusqu'à cette période-là, et même un peu plus vieux, il y avait encore une technique issue de l'ancien régime pour les parricides, à savoir qu'ils se présentaient devant la guillotine avec un voile noir et on leur coupait le poing avant le couperet. Donc ça, c'est pour l'évolution de la justice un petit peu. Après, les techniques policières, oui, bien évidemment. 19e, 20e siècle, là, l'une des dernières affaires que nous avions traitées en PJ est l'affaire Viguier, vous savez, du professeur de droit dont l'épouse a disparu. Donc voilà, la technique de l'identité judiciaire, de la police technique scientifique a évolué. Et c'est justement toutes ces techniques-là que j'essaye justement de montrer.
D'accord. Alors, vous êtes, pour le coup, un documentaliste, un essayiste, quand vous êtes ça, quand
c'est
vous
ça.
Faites ce genre d'ouvrage. Et c'est l'intérêt que vous portez, évidemment, en tant que professionnel, évidemment, à la retraite aujourd'hui, mais aussi en tant qu'historien,
ouais,
j'imagine.
Tout à fait. Alors, moi, je suis, effectivement, je suis un ressusciteur. Voilà. Au même titre qu'un livre que j'avais fait deux livres que j'avais fait il y a quelques années qui s'appelaient « Les mystères et les nouveaux mystères de Haute-Garonne », aujourd'hui condensé dans un petit ouvrage, un petit poche qui s'appelle « La Haute-Garonne insolite », ce sont des histoires vraies. En fait, vous savez, l'historien Mérimée disait « Je n'aime l'histoire que par l'anecdote ». Donc plutôt que de prendre la grande histoire et d'arriver à l'anecdote, je fais l'inverse. Je retourne l'entonnoir, je prends de l'anecdote pour percevoir la grande histoire et l'histoire précisément de la Haute-Garonne ou de Toulouse. Je l'ai fait pour les histoires criminelles. Dans d'autres livres, je l'ai fait pour des histoires patrimoniales, religieuses ou autres. Donc ça permet de connaître l'histoire locale par le petit trou de la lorgnette.
Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est l'histoire locale. Mais moi, j'aurais plus tendance à dire c'est l'histoire des hommes, en fait, l'histoire humaine. Parce que derrière tout ça, il y a des hommes et il y a le mal qui se cache dans chacun d'entre nous.
Bien sûr. Alors, pour le domaine criminel, c'est certain. Et après, effectivement, on peut percevoir à travers tout ce à quel point ce qui est local resplendit effectivement sur l'ensemble de la société et le mal aussi et les manières qu'a l'État d'y combattre.
Ouais. Alors, vous n'êtes pas qu'un documentaliste, on va dire. Vous êtes aussi un écrivain à l'imagination fertile, puisque vous êtes déjà à quoi, 5-6 romans, quelque chose comme
voilà,
ça.
C'est ça. J'ai fait 6-7 romans et j'en ai 3 qui sont dans le placard.
Ouais. Et alors, ces romans, ce sont particulièrement des polars qui sont ancrés dans une géographie, c'est souvent sur nos territoires. Comment travaillez-vous? D'où partez-vous? Est-ce que vous partez d'affaires que vous avez pu vous-même résoudre? Ou c'est votre simple et unique imagination?
Non, je ne pars pas de faits réels. Je pars de ma pure imagination. Alors, dans un polar, évidemment, donc dans quelques livres, il y a toujours une part de soi. Donc, il y a toujours un personnage ou un fait qui peut ressortir en cours d'écriture. Mais à la base, non, tout n'est que le fruit de l'imagination. Et ce qui est important, c'est que je ne sais pas toujours où je vais, en fait. Donc, ce sont quelquefois les personnages qui me guident et qui me disent « Tiens, ben, j'aurais presque envie de faire ça, ceci, cela. » Je ne suis pas toujours maître de tout et c'est ça qui est important aussi.
Mmh. On a tendance à dire que souvent, le réel dépasse la fiction. Vous avez vu les deux côtés.
J'ai vu les deux côtés et c'est vrai que tout peut s'interférer. Il y a des histoires criminelles qui sont absolument incroyables dans les grandes affaires d'Occitanie. Il y a quand même des choses qui sont assez abominables et assez incroyables aussi. Dans le roman policier, j'essaye, au contraire de roman policier, d'être en lien avec l'actualité, avec la police technique et scientifique. Mes romans policiers, jusqu'à ce jour, sont contemporains.
Je fixe les voitures, tente de m'aveugler à la lueur des phares. Impossible, furtive, évanescente, quelques bulles, quelques ombres se crèvent à ma surface. Un type qui tient sa boutique, seringue coincée derrière l'oreille comme un épicier l'aurait fait de son crayon. 3 petites cuillères posées sur un carton retourné, noir d'avoir trop servi, noir pour s'initier au noir. Une bouteille de coca remplie d'eau croupie pour le mélange, des bouts de coton essemés de ci, de là, comme des flocons de neige, comme de la soie mortuaire. Extrait du livre « L'orange était sanguine ».
On va le voir justement maintenant avec le dernier livre que vous allez sortir, puisque là, c'est un livre qui nous amène en Espagne, dans le milieu du proxénétisme et le milieu des migrants.
C'est ça. Voilà, donc c'est un livre qui va s'appeler donc « L'orange était sanguine ». Il va se passer donc en Catalogne, effectivement, en grande partie dans une orangerie, et un petit peu aussi à Toulouse. Et ça va partir donc d'un assassinat au quartier Ardo Bernard à Toulouse, et puis ensuite ça va mener les enquêteurs jusqu'en Espagne et plus au-delà.
Vous n'hésitez pas à aborder des sujets un petit peu chauds, très contemporains, vous l'avez dit tout à l'heure. On découvre notamment une jeune fille qui est d'origine marocaine et qui est homosexuelle. Voilà, ce sont des sujets. Et vous me disiez tout à l'heure que ce qui vous importe aussi, à vous personnellement, c'est d'amener le lecteur à réfléchir et à découvrir des choses peut-être qu'il ne connaît pas.
Exactement. Moi, ce que je veux dans un roman policier, vous savez, autrefois, on appelait ça, vulgairement parlant, des romans de gare. C'est pas fait pour passer forcément une heure ou deux. Moi, je veux qu'on en ressorte et que j'en ressorte aussi égoïstement en ayant appris quelque chose. Voilà. Il faut du positif. Donc c'est pour ça que ce soit les migrants, que ce soit l'homosexualité d'une Marocaine, parce que l'homosexualité aujourd'hui en France, elle est admise. Au Maroc, c'est pas le cas. Donc tout ça fait partie des choses que l'on peut apprendre. Idem sur la prostitution, la langueur ou autre. Il faut en ressortir même dans un polar en ayant appris quelque chose.
Ça veut dire que vous devez travailler votre sujet, c'est-à-dire vous documenter, j'imagine.
Absolument, je ne laisse rien au hasard. Dès qu'une idée me vient, je vais me documenter et l'idée, une idée rebondit sur une autre. Et c'est comme ça que petit à petit, on progresse.
Comment vous travaillez? Est-ce que vous écrivez tous les jours? Est-ce que vous laissez mûrir le projet quelques années lorsque vous avez une idée? Comment au quotidien
non.
ça se passe pour vous?
J'essaye moi d'écrire tous les jours. De préférence le matin, mais parce que c'est mon rythme. J'habite en milieu rural, donc souvent l'après-midi, ben, il faut tondre ceci, cela. Donc j'aime bien le matin. Et puis après, on est. En fait, même si on n'a pas un stylo à la main, on écrit tout le temps. Quoi, parce que on a toujours un papier, une idée peut venir. La nuit, ben, sur ma table de nuit, ben, j'ai le stylo, j'ai le papier. Il faut pas laisser passer une idée. Et de temps en temps, la nuit, ben, quand je dors mal, ben, je me dis, tiens, le personnage, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait ne pas faire. Voilà, on est toujours, toute proportion gardée, une forme d'ébullition.
Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire?
Je crois, je ne voudrais pas passer pour un fou, mais je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Je pense qu'il y a une forme de prédisposition. J'avais un grand-père qui écrivait. Bon, d'où ça vient? Vous savez, les tares, ça se souvent une génération. Là, c'est peut-être pareil. Et depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu envie, besoin d'écrire. Alors, au départ, j'ai travaillé avec De Boré, qui est un très très bel éditeur, mais qui fait essentiellement du terroir. Et donc, j'ai fait des livres, comme Les Grandes Affaires Criminelles d'Occitanie, Les Mystères de ceci, Les Mystères de cela. Et un jour, j'ai fait une radio à Toulouse, hein, et l'animateur de la radio en question m'a dit, tu sais Patrick, je trouve que tu écris fort bien, il faudrait que tu te lances dans le roman. Et je me suis dit, tu vas jamais y arriver, j'ai jamais fait de roman. Et puis je me suis dit, ben pourquoi? Je vais essayer, ça ne me coûte pas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parti. Voilà, tout simplement.
Et cette façon d'écrire que vous avez, je trouve qu'il y a un style, il y a des phrases très courtes, parfois vous vous contentez même d'un mot, et puis vous allez chercher la précision, et particulièrement dans le profil des enquêteurs. On voit que vous avez et fait partie de la maison, comme on dit.
Alors certes, il faut créer une forme de crédibilité donc avec ce domaine-là. Mais par contre, ce que vous dites me fait plaisir. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'en a pas parlé. Mais en fait, mes premiers écrits en littérature ont été la poésie. Donc j'ai fait plusieurs recueils de poésie, ça m'a donné lieu de rencontrer des gens aussi disparates que Moustaki, que Dominique de Villepin, que Lalanne, etc. Et si vous voulez, la poésie, même si j'en fais moins aujourd'hui en tant que telle, c'est une maîtresse dont on ne peut jamais se séparer. Autrement dit, la musicalité qu'elle a pu m'apprendre, l'amour des mots que j'avais dans la poésie, j'essaye qu'il se retrouve dans un roman policier, qu'il y ait aussi de la musique. Phrase courte, parfois une phrase longue, ça permet de casser. Ne pas endormir le lecteur. Des points d'interrogation, des images, j'essaye. Ouais. Il faut mêler à la fois le rythme, l'action, il en faut bien sûr, le côté émotionnel, et puis ça ne dispense pas de bien écrire et d'avoir quelque chose qui soit un peu plus lyrique.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont particulièrement ému, touché et est-ce que vous êtes un lecteur?
Alors oui, alors figurez-vous que quand j'étais en activité, j'ai jamais lu un roman policier de ma vie. Alors maintenant, depuis 10-15 ans, je me repais entre autres de romans policiers. Et alors en ce qui concerne, bon, mais écoutez, mes auteurs préférés, alors c'est un vieil auteur dont on n'entend plus parler aujourd'hui ou peu, mais c'était René Fallet, j'adorais René Fallet. Voilà, magique, ouais. Magique dans le style, ouais. Magique
avec
dans
deux René Fallet, le René Fallet whisky et le René Fallet vin rouge, c'est-à-dire le René Fallet un petit peu noir et puis le René Fallet avec
ça.
La gouaille française.
Exactement.
Et rablaisienne.
Voilà, remarquable auteur. Et puis alors bien d'autres aujourd'hui. Après, bon, il y a plein d'autres auteurs, des autres anciens. Je sais pas, il y a peut-être Octave Mirbeau, mais c'est encore plus vieux. Mais alors, et puis aujourd'hui, moi j'aime beaucoup Didier Van Covelhert. Alors l'histoire, oui, bien évidemment l'histoire, mais un roman avec une belle histoire qui est mal écrit, je supporte pas, je n'aime pas. Il faut que ce soit, vous savez, les mots doivent se lire comme on écoute un ruisseau, ça doit couler, ça doit, mais ça dispense pas qu'il y ait du fond, mais il faut que si on accroche sur une ligne comme si vous mettez vos yeux, votre regard sur un fil barbelé, moi j'ai du mal. Ouais, mais ce n'est jamais que mon ami personnel. Voilà, c'est personnel.
Le soleil a depuis longtemps évaporé des murs ses dernières gouttes dorées. Mais les briques s'en souviennent encore, exhalant leur moiteur fuchsia au dernier noctambule. La voiture, doucement féline, glisse sur l'asphalte. Ne pas faire peur, ne pas brusquer, s'insinuer, attendre. J'analyse ma ville, rouge, noire, latine, rebelle, fière, toujours fière.
On va revenir sur les affaires criminelles, si vous voulez bien, pas forcément sur le livre, mais sur l'appétence que peuvent avoir les gens autour de la question criminelle. On voit bien aujourd'hui que des émissions sur ces questions-là font un tabac. Comment vous l'expliquez ?
Il y a plusieurs raisons. Beaucoup de gens aimeraient peut-être avoir été fonctionnaires de police, avoir enquêté, aimeraient bien, donc ils se mettent, Maigret, tout ça, ça a des années, ça a toujours très bien marché. Donc il y a ce côté un petit peu mimétisme avec le héros. Il y a aussi le facteur émotionnel. Avoir peur, résoudre l'affaire. Je sais qu'effectivement, les gens aiment beaucoup ça. Moi, ce sont les deux raisons que j'imagine pour vous répondre.
On a tendance quand même à avoir une idée un peu romancée du policier. Et pourtant, on le voit dans l'actualité, c'est un métier difficile et dans des conditions de travail de plus en plus difficiles. Quel regard, justement, vous portez aujourd'hui sur ce genre d'actualité-là ?
Alors, c'est un métier, effectivement, qui a toujours été difficile. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas une police, mais des polices. C'est-à-dire qu'entre le métier de... Moi, j'ai mon plus jeune fils qui est en sûreté urbaine, donc en uniforme. Ce métier-là n'a rien à voir, évidemment, avec celui de technicien d'identité judiciaire ou celui du renseignement intérieur ou celui de la police judiciaire, telle qu'elle existe encore. Et j'espère pour longtemps. Là, c'est un travail de grande... Vous savez, le travail de police urbaine, c'est un travail de ponçage, de civilisation, c'est de la petite criminalité... En PJ, ce sont des grosses affaires, ou financières, ou de stup. Bon, des bracos, maintenant, il n'y en a quasiment plus, mais ce sont des grandes affaires avec un travail d'investissement. Mais pour arriver à interpeller, parce que souvent, quand on voit les polars, les séries à la télé, l'interpellation, c'est bien d'interpeller. C'est pas compliqué d'interpeller quelqu'un. Mais après, il faut l'accrocher en procédure. Donc, pour l'accrocher en procédure, il y a des mois et des mois d'enquête, d'écoute judiciaire, pour précisément savoir où on va, quoi. Donc, et tout ça, c'est un travail de fond qui n'a rien de travail de terrain, mais qui est fondamental pour résoudre l'affaire.
Et on le sent bien dans votre dernier livre, justement, il y a quelques touches comme ça de précision sur le travail que doit accomplir le policier.
Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai un roman, oui, mais un roman, il faut, je le répète, il faut crédibiliser. Un roman, pour moi, un roman n'est jamais aussi appréciable, jamais aussi apprécié quand il colle à la réalité. Il faut que les personnes s'identifient à un métier, et donc pour s'identifier à un métier, il faut s'identifier aussi à la réalité.
Est-ce que vous pourriez écrire autre chose qu'un polar ? Vous avez écrit, vous l'avez dit tout à l'heure, de la poésie au tout début. Est-ce que maintenant vous dites, j'aimerais écrire, pourquoi pas, une romance ? Je ne sais pas, enfin,
J'ai écrit un autre livre qui est un roman historique, parce que j'aime bien l'histoire. Et figurez-vous que par le plus grand des hasards, un jour, quelqu'un m'a acheté un roman et cette personne faisait de la généalogie et nous sommes cousins à la 8e ou 9e génération, qu'importe, par le biais d'un ancêtre qui avait combattu sous la Terreur, donc en 1793-14, etc., parmi les troupes dites royalistes de Vendée. Et ce personnage, ma grand-mère, m'en avait parlé. Et donc, je me suis dit, pour ma mamie, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les guerres de Vendée, vulgairement les Chouans, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs, c'est un peu faux, mais qu'importe. Et donc, j'ai fait un roman historique sur les guerres de Vendée et sur ce massacre, il faut le dire, massacre républicain, plus de 200 000 personnes d'exécuter, de tuer, c'est une horreur absolue.
Qui a été longtemps niée d'ailleurs.
Et qui est longtemps niée.
Même encore.
Et même encore aussi. Vous savez, la République, on ne va pas faire de la politique, mais la République, quand elle a de la poussière, elle la met savamment sous le tapis. Voilà, donc j'ai voulu faire ça pour ma grand-mère, et donc j'ai fait un roman historique. Il n'est pas interdit que j'en fasse un jour un second.
Voilà. D'accord, très bien. Sur quoi vous travaillez maintenant ?
Mon éditeur m'a commandé un polar gourmand. Donc, un polar gourmand qui ne sera pas très lourd. Alors, évidemment, ce sera restaurant, un peu d'alcool, un peu de rugby. Voilà, bah tout ce qui, le sud-ouest évidemment. Alors ça va se passer dans la région un petit peu de Sorèze, d'Ariège, des Landes. Enfin, un petit périple. Alors sans, un livre sans prétention littéraire, mais pour passer un bon moment et pour se repaître de quelques bons mots et de quelques bons moments.
Merci à Patrick Cojol et sa maison d'édition, les éditions Kern. Je vous rappelle le titre du dernier polar de Patrick Cojol, L'Orange était sanguine. Il sera dans toutes les bonnes librairies en avril prochain. Nous aurons bien évidemment l'occasion de vous en reparler. Itrema, c'est fini. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radio Delerse.